quelques postes.
Ouais.
Gaëtan, tu te présentes solairement ou c'est pas nécessaire?
Je m'appelle Gaëtan Tremblay, pour ceux qui ne me connaissent pas. Professeur à l'École des médias. J'essaie de faire deux choses en même temps. Ce qui n'est pas marcher de la gomme et marcher en même temps.
Un petit exposé, Gaëtan, d'un maximum de 40 minutes.
40 minutes, oui. Okay. C'est bon. Je m'excuse déjà auprès de ceux peu nombreux qui étaient à Paris. Je vais reprendre mon exposé de Paris, mais ça va être la version longue. À Paris, on avait 15-20 minutes. Là, j'ai 40 minutes, donc je vais pouvoir entrer un petit peu plus dans les détails. Et aussi parce que j'ai eu un mois de février, possiblement perturbé par des événements familiaux. Alors, je n'ai pas pu retravailler sur le texte, que j'aurais pu un petit peu peut-être peaufiner, mais j'aurais pas eu le temps non plus d'inventer quelque chose de totalement nouveau. Si je peux trouver comment faire pour faire le diaporama.
En bas.
Nouvelle présentation, le diaporama, c'est ici. Voilà. OK. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Didactique de l'esprit critique à l'ère du postmodernisme ». Donc, dans le titre, on retrouve l'ensemble de mes trois préoccupations, je dirais. L'esprit critique, qu'on prend facilement pour acquis. J'ai remarqué qu'on donne peu de définitions d'esprit critique. On ne s'est pas attardé, même dans le cadre de ce séminaire, à essayer de circonscrire ce qu'on entend par là, en prenant un peu pour acquis que... Vous savez tous ce que ça voulait dire. Je pense qu'on a tous, une idée de ce que signifie l'expression esprit critique, mais peut-être qu'on n'a pas la même, mais peut-être qu'il serait bon d'essayer de s'entendre tout au moins sur un minimum. Didactique parce que je suis préoccupé par des questions pédagogiques concernant l'esprit critique, que vous allez voir tout de suite d'entrée de jeu, c'est ma porte d'entrée. Comment aborder la chose, développer le sens critique chez les étudiants, dans le cadre de nos formations en communication. À l'ère du postmodernisme, qui fournit le contexte global, parce que j'ai l'impression que le postmodernisme est peu compatible, en tout cas une certaine acception du postmodernisme, je fais référence là à un certain relativisme absolu, est peu compatible avec un esprit critique, curieusement, à mon avis. En tout cas, au sens où je l'entends. Et là, c'est peut-être nécessaire, effectivement, de s'entendre sur les termes. Mes questions de départ, c'était à peu près les suivantes. Pourquoi les étudiants perçoivent-ils souvent la formation professionnelle et l'approche critique comme incompatibles? En communication, on rencontre souvent, je sais qu'il y a des gens en sociologie ici, en sciences humaines et sociales. En communication, c'est patent. Les étudiants sont très préoccupés par la profession qu'ils veulent exercer, que ce soit cinéaste, producteur... Peu importe, mais ils sont très préoccupés donc par les aspects professionnels qu'ils voient souvent en opposition avec une approche critique. C'est ça qu'on creuse un peu la chose. Pourquoi ils voient ça comme difficilement compatible? Deuxième question, l'approche critique a-t-elle perdu de sa crédibilité? Moi, quand je suis arrivé à l'UQAM, ça fait très longtemps, l'UQAM était toute jeune, elle n'avait qu'à peine 5 ans, je suis arrivé en 1974. Et l'esprit critique, on est tombé dedans quand on était petit, quand on arrivait à l'UQAM. Ça ne se posait pas comme question. C'était l'objectif numéro un, en tête de liste, des programmes de formation des étudiants. Tout programme qui se respectait à l'époque avait pour principal objectif de développer le sens critique, surtout à l'UQAM. C'était le contexte aussi. C'était les années 70, les propices à ça, puis... qui avait suivi des grandes contestations étudiantes de la fin des années 60, qui se sont poursuivies dans les années 70, d'un milieu d'agitation politique plus grande que maintenant. On a du mal à se représenter. C'est très différent l'atmosphère qu'il y a à l'UQAM maintenant de celle qu'on avait dans les années 70. Alors, est-ce qu'elle a perdu de la crédibilité? Est-ce que la structure de nos programmes et notre pratique pédagogique serait responsable de cette situation? Autrement dit, un retour critique sur la façon dont nous concevons nos programmes et la façon dont nous pratiquons la pédagogie. Autre question, certaines fonctions médiatiques nécessiteraient-elles davantage la pensée critique et d'autres la créativité? Peut-être. Et comment remettre à l'honneur la pensée critique? C'était mes questions de fond. Quand j'ai dit que quand je suis arrivé à l'UQAM, la pensée critique était l'objectif numéro un, ce n'est plus tout à fait vrai si vous allez voir les descriptions de programmes qu'on trouve sur le site, par exemple, de l'École des médias. Je vous en donne une illustration. Le journalisme faisant exception. On a, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'École des médias, nous avons des programmes complets en journalisme, en cinéma, en télévision. Médias alternatifs, interactifs, et puis production médiatique. Voilà. Dans ces différents programmes, il y a, si vous allez sur le site de l'École des médias ou sur au registraire, vous allez trouver résumé un petit paragraphe sur c'est quoi les objectifs principaux de formation. Pour le journalisme, la formulation est la suivante. Le profil, on les appelle profil, mais c'est les programmes complets. Le profil journalisme du baccalauréat en communication vise à former des professionnels de l'information aptes à réfléchir de manière critique. C'est le seul programme qui a conservé le mot critique dans la formulation de ses objectifs. Donc, de réfléchir de manière critique aux fonctions et au rôle de l'information dans une société démocratique et à comprendre les grands enjeux et problèmes sociaux. Mais si vous prenez les objectifs du programme en médias interactifs, la formulation est la suivante. Ce programme a pour objectif de former des intervenants compétents dans le domaine des communications médiatiques. Vous voyez, l'accent est mis sur les objectifs professionnels, la compétence. Plus spécifiquement, former des spécialistes en interactivité et des concepteurs en nouveaux médias. On recherche des individus créatifs, débrouillards et articulés, prêts à s'inscrire dans les exigences d'innovation continuelle du média et à participer à son évolution. Et cinéma. Je ne les donnerai pas tous, mais vous irez voir. Ça confirmera mon assertion. Sauf le programme en journalisme, le mot critique a disparu. La référence à la critique a disparu. Pour le cinéma, ce programme a pour objectif de former des intervenants compétents dans le domaine des communications médiatiques. Plus spécifiquement, former des spécialistes dans le champ de la réalisation, de la direction de la photographie et de la post-production au cinéma. L'accent est clairement sur les objectifs professionnels. Est-ce que ce serait... Bon, la télévision, le dernier. Ce programme a pour objectif de former des intervenants compétents dans le domaine des communications médiatiques, plus spécifiquement former des spécialistes en conception, en réalisation et en animation télévisuelle. Alors, vous voyez que c'est pas anodin, hein, les mots qu'on choisit pour exprimer des choses aussi importantes que les objectifs de formation sont supposés faire sens. Du sens. Donc, la référence à la critique, quand je vous dis que peut-être que ça a perdu de la crédibilité, elle a été évacuée au bénéfice de formation, d'objectifs professionnels. C'est une préoccupation, et je voulais commencer par là, mais je l'ai oublié, féliciter et remercier Eric d'avoir organisé cette séquence de séminaires sur la pensée critique. Ça avait fait l'objet de quelques conversations autour d'une bière, à quelques reprises. On sentait qu'effectivement, la pensée critique était moins valorisée qu'auparavant. Éric a pris la balle au bon. Et ça aurait été, d'ailleurs, ça aurait fait très bizarre, dans les années 70, d'organiser un séminaire sur la pensée critique. Ça allait de soi. Il n'y avait pas besoin d'un séminaire pour sa pensée critique. Tout le monde la pratiquait, la pensée critique. Tout le monde aussi faisait de l'intervention. Alors, il n'y avait pas vraiment de cours axés sur c'est quoi l'intervention sociale. Il n'y en avait pas sur la critique non plus. Pas en ce sens-là. C'est parce qu'il y a une problématique qui s'est développée autour de ça qu'on était obligé d'organiser ça. Alors, qu'est-ce que la pensée critique? Je vous avais annoncé que, tout au moins, je vous proposerai quelques pistes pour qu'on s'entende sur la base. La pensée critique, pour moi, ce n'est pas une théorie particulière. Je dirais que ce n'est même pas un choix idéologique gauche-droite. On peut avoir de la pensée critique même à droite. C'est pas la même chose. C'est sûr que ce n'est pas la même critique. Elle ne se fonde pas sur les mêmes valeurs, elle n'a pas les mêmes références, mais il y a des gens de droite qui développent une pensée critique. Pour moi, la pensée critique, c'est plus une question d'attitude, une question d'approche. Et si on veut systématiser davantage, je dirais que c'est une question de méthode et une question épistémologique. Je vous donne une courte définition empruntée à Henri Brock, qui dit « La pensée critique est inhérente à la démarche scientifique. » Vous voyez tout de suite que je m'y arrime dès le départ, et ça fera l'objet de réflexions, par exemple en opposition avec le courant postmoderniste. Et pour Henri Brock, il dit « C'est l'ars, hein, » il emprunte le mot au latin, « l'ars du doute, l'art du doute. » Vous trouverez, sur, si vous fouillez sur, avec Google, sur Internet, vous trouverez un certain nombre de choses étonnantes sur, sur la pensée critique. Vous trouverez entre autres une référence américaine, « The Critical Thinking Community ». C'est un gros site avec des manuels pour favoriser le développement, l'apprentissage de la pensée critique dans les collèges américains, dans les universités américaines. Il y a tout un courant qu'on ignore aux États-Unis, et qui a un gros site Internet, qui a une localisation dans une université bien spécifique. Si j'avais une connexion Internet, je vous montrerais rapidement la page d'accueil. Mais si vous allez dans Google, si vous tapez « The Critical Thinking Community », vous allez trouver là un certain nombre d'informations sur ce courant, ce mouvement. Vous trouverez aussi un collectif qui, je pense, est québécois ou français, en langue française, qui s'appelle « Pensée critique révolutionnaire », clairement situé à gauche, avec encore là une série de textes, de conférences, de documentations concernant le développement de la pensée critique, d'inspiration, celle-là, clairement révolutionnaire, le site le dit, donc socialiste, communiste et révolutionnaire. Pensée critique révolutionnaire, c'est le nom du site. Vous trouverez aussi une revue en espagnol qui s'appelle Pensamiento Crítico, la pensée critique. Bref, il y a une présence de la pensée critique organisée, constituée en collectif sur Internet. Vous trouverez aussi un site qui est consacré à la zététique. Peut-être que c'est un mot que vous entendez pour la première fois. Zététique, avec un Z. La zététique, c'est, ça signifie chercheur, ça signifie rechercher en grec. Et c'est un mot qui veut un petit peu dire la même chose que scepticisme. Et la zététique, il y a un site, encore là, qui est hébergé par l'Université de Nice et qui est animé par le professeur Henri Brock, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui, entre autres, a développé toutes sortes d'expériences pour critiquer les approches paranormales. C'est un physicien, là. Et il a mis en place, et il fait des interventions sur la place publique pour démonter les trucs reliés aux expériences de pensée normale. Comme par exemple, coucher sur des clous. Il le fait en public. Marcher sur des tisons ardents. Il fait ça. Et après, il explique, vous trouverez ça sur son site, c'est quoi les trucs derrière ça. C'est quoi les phénomènes physiques qui peuvent expliquer des choses comme celle-là. C'est une approche tout à fait à l'inverse de l'UQTR, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, dont on nous parlait récemment dans la presse, hein, qui offre un cours sur le phénomène paranormal. Un cours sérieux, pas un cours de critique, mais un cours qui fait la promotion des phénomènes paranormaux à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Où, paraît-il, les exigences académiques sont d'un ridicule consommé, là. Même pas de niveau secondaire, ça serait, paraît-il, que 50% de la note est attribuée à un petit travail d'une couple de pages pour décrire une expérience paranormale. Décrivez une expérience paranormale. À l'UQTR. C'est deux pages, hein? C'est ça, je disais une couple. Je ne voulais pas trop préciser parce que mon souvenir n'était pas très précis à ce niveau-là. Mais je pense que c'est ça, c'est deux pages. 50% de la note est attribuée à ça. Alors, c'est un prof qui fait ça, je ne souviens plus de son nom. Peut-être, Renaud, tu te souviens du nom du prof en question?
Non.
Non? Mais si vous allez sur le site de l'UQTR, vous trouverez facilement ce cours consacré au phénomène paranormal. Il y a trois crédits universels consacrés à ça. La zététique de Brock, c'est aux antipodes de ça. Lui, il fait le contraire. Il montre comment est-ce que ce sont des phénomènes qui s'expliquent qui s'expliquent scientifiquement. La zététique, je vous donne la définition qu'on trouve sur le site, dit le nom de zététique, qui signifie chercheur, indique une nuance assez originale du scepticisme. C'est le scepticisme provisoire. C'est presque l'idée de Descartes considérant le doute comme un moyen, non comme une fin, comme un procédé préliminaire et non comme un résultat définitif. Si tous les sceptiques avaient été réellement zététiques et seulement zététiques, ils auraient dit avec Piron, nous arrivons non au doute, mais à la suspension du jugement. C'est une citation de Piron. Sceptique signifie littéralement examinateur. Gens qui pèsent, réfléchissent, étudient attentivement, mais il a pris à la longue un sens plus négatif que dubitatif et a signifié ceux qui, sous prétexte d'examiner toujours, ne décident jamais. C'est effectivement un des pièges du scepticisme, de devenir tellement circonspect par rapport à tout, de ne pas savoir, de jamais être sûr de rien, on ne bouge pas. ça peut être très paralysant, le doute. Et justement, cette définition essaie de distinguer quand même entre le doute stérile qui recule devant toute action, hein, et l'attitude de celui qui examine, qui pose question, hein, qui ne prend jamais rien pour acquis, qui déterre les phénomènes, qui questionne les évidences. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aussi à propos de l'esprit critique, qu'on prend toujours comme une évidence, c'est de voir sur quoi on peut s'entendre fondamentalement. Après cette donc ce rapide tour d'horizon, je n'ai pas prétendu en donner une définition précise, mais essayer de vous situer dans quelle optique je me situais, de vous préciser dans quelle optique je me situais par rapport à la pensée critique, qui n'est pas... par exemple, si je peux faire une référence au séminaire qu'on a eu à Paris, c'est clair que Tristan Matelard, quand il parle de pensée critique, il parle de pensée critique à gauche. Et entre autres, lors de son discours d'ouverture, hein, il s'en est pris à ceux qui dévoient en quelque sorte la pensée critique. Il n'a pas nommé personne, sauf Polton, pour dire que bon, c'est une sorte de récupération de la pensée critique. Tristan Matelard, c'est correct, hein, faut juste l'énoncer. Tristan Matelard se situait nettement dans une école de pensée particulière qui pratique la critique, mais une critique orientée en fonction d'un certain nombre de valeurs. Bon, je ne dis pas qu'il est possible de développer une pensée critique sans valeurs. Je dis qu'il est possible de développer une pensée critique aussi avec un autre système de valeurs, à droite, par exemple. Il y a des gens de droite critiques. Le postmodernisme menace-t-il la pensée critique? J'en viens à mon second point. Le relativisme radical est-il compatible avec la pensée critique? Et ça me permettra aussi d'aborder par la bande les falsifications scientifiques qui existent, bien sûr, et comment l'esprit critique voit-il la science? Quand je pense au postmoderne, je pense surtout à une conception de la science qui est véhiculée par plusieurs d'entre eux, comme quoi la science est machiste. On entend souvent ça. La science est faite par des hommes. Elle a été faite traditionnellement par des hommes. Donc, elle est suspecte. C'est une science orientée. C'est pas une science... Une science des femmes serait différente. La science est blanche. Elle a été faite par des Occidentaux. Elle n'a pas été faite par des Asiatiques. Elle n'a pas été faite par des Noirs. Elle est blanche. La science est développementaliste, tournée vers le progrès, au service de l'économie, au service du capitalisme, etc. La science est au service du pouvoir et de l'argent. Et la science, finalement, est subjective. Bref, la conclusion de toutes ces critiques amène à la conclusion, pour certains, que la science, c'est un discours parmi d'autres, qui ne vaut guère mieux, qui est entaché de toutes sortes de préjugés, de systèmes de valeurs. Bref, ça place la science sur le même plan que n'importe quel autre discours. Avec une approche comme celle-là, la pensée critique, à mon avis, telle que je l'entends, devient pratiquement impossible. Comment questionner les phénomènes paranormaux, hein, si on ne prend pas assise sur quelque chose? Pour pratiquer la pensée critique, il faut avoir des assises, en quelque part. C'est-à-dire, il faut une certaine base. Soit-elle, cette base-là, modifiable, questionnable elle-même, mais il faut un certain nombre. On s'appuie sur quelque chose. Comme lorsqu'on fait une pensée, lorsqu'on développe une pensée sociale critique, on a nécessairement en tête un certain système de remplacement. Sinon, sur quoi, à partir de quoi, hein, on fait cette critique sociale? On a une certaine utopie derrière la tête qui a été la pensée ou le système communiste à une certaine époque, certaines variantes du système communiste, la pensée socialiste, la pensée environnementaliste, etc. On a une certaine idée d'un système meilleur. On a, bref, une base pour énoncer la critique. Si tous les discours se valent, on n'en a plus de base. Je vais vous citer Bayarjon, qui est un collègue ici de sciences de l'éducation que j'aime bien, qui a publié une petite plaquette que je vous ai mis dans les premiers envois qui est fait de mon résumé. Je vous disais, ça vaut la peine, si vous donnez des cours, si vous faites c'est un bon ouvrage de référence qui a été fait dans cet esprit-là, pour apprendre aux étudiants les B.A.B.A., le B.A.B.A. de la pensée scientifique, de la pensée critique. Je le cite longuement ici. « Finalement, la rationalité elle-même, celle que la science s'efforce précisément de mettre en œuvre, est aujourd'hui l'objet d'attaques de fond en certains milieux, intellectuels et académiques. En général, la science et la raison sont alors données pour de sordides masques idéologiques couvrant diverses dominations, occidentales, mâles, capitalistes, etc. De telles analyses débouchent parfois sur l'affirmation d'un relativisme qui tend la main aux doctrines paranormales et ésotériques et selon lesquelles la science n'est qu'un discours parmi d'autres, une simple construction sociale et politique sans accès privilégié à la vérité. On justifie alors une telle conclusion par l'énorme difficulté qu'on fait passer pour une impossibilité à énoncer précisément et d'une manière philosophiquement satisfaisante ce qu'est la science, comment elle fonctionne et comment ses résultats sont obtenus et vérifiés, toute tâche que se propose d'accomplir, mais sans y être parvenu entièrement, une discipline appelée l'épistémologie, du grec épistémé, savoir et logos, discours, étude. L'épistémologie est l'étude critique de la science, de ses principes, méthodes et conclusions. Je vous avais annoncé que ça nous mène développer le sens critique, développer une approche critique, c'est nécessairement, à un moment donné, faire de l'épistémologie. Autre citation, celle-là de Noam Chomsky, qui résume bien encore là ce que j'essaie de communiquer. Nombre de scientifiques, il n'y a pas si longtemps, ont pris une part active dans la vie culturelle des classes laborieuses, cherchant à atténuer le caractère socialement marqué, class character, de la culture savante, en concevant des programmes d'éducation destinés aux travailleurs ou en écrivant des ouvrages de mathématiques et de sciences conçus pour un large public. Il n'y a pas seulement des intellectuels de gauche pour s'investir dans cette cause, mais je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, leurs homologues tentent de priver ce même public non seulement des joies de comprendre et d'exercer son intellect, mais également des outils de son émancipation, en professant l'idée que le projet des Lumières est bel et bien mort et que nous devons abandonner les illusions attachées à la science et à la rationalité. Ce message ne peut que réjouir les gardiens du pouvoir qui pourront ainsi réserver à leur propre usage la maîtrise et le monopole de ces instruments. Ces derniers ne seront pas moins réjouis d'entendre que la science est un système qui en lui-même légitime l'autorité des chefs et que tout défi à cette autorité doit se comprendre comme un déni, un défi à la rationalité. On assiste là à un retournement remarquable de la position qui autrefois associait éducation et émancipation. Cela me rappelle le temps où l'Église évangélique prêchait l'ignorance comme moyen de salut aux populations indisciplinées, au plus près de nous, ce que leurs descendants enseignent aujourd'hui aux paysans d'Amérique centrale et que E. Thompson nomme l'encadrement psychique des contre-révolutions. L'argument de Chomsky, en deux mots, c'est de dire c'est faire le jeu du pouvoir des capitalistes que de dénigrer la science à ce point et de nier son accès, en quelque sorte, aux classes laborieuses et populaires et de le réserver à une élite. Ce à quoi aboutit, évidemment, une pensée relativiste radicale. Je voulais aborder les questions de falsification scientifique, mais je pense que ça m'amènerait un petit peu trop loin. Autre citation, cette fois-ci, de Merleau-Ponty, qui dit « C'est un fait qu'on a rêvé d'un moment où l'esprit, ayant enfermé dans un réseau de relations la totalité du réel, et comme en état de réflexion, demeurerait désormais en repos, ou n'aurait plus qu'à tirer les conséquences d'un savoir définitif et apparaît par quelque application des mêmes principes au dernier soubresaut de l'imprévisible. Ce rationalisme-là était, dit Merleau-Ponty, plein de mythes, alors même qu'il se croyait à jamais dégagé du mythe. » Et certains diront que, justement, le problème d'une certaine science, et c'est le problème auquel conduit la pensée de Popper, par exemple, c'est de penser que la science obéit à un seul et unique modèle, qu'il s'agit de copier dans chacune des disciplines. C'est beaucoup plus complexe que ça, que ce qu'avait entrevu Popper, une logique universelle bien définie. Il n'y a pas de logique universelle bien définie. Je chemine vers une conclusion qui est de dire que l'esprit critique est d'autant plus important en communication, me semble-t-il, que Les techniques de persuasion et de manipulation sont des techniques de communication. C'est essentiel, de mon point de vue, de développer chez nos étudiants l'esprit critique. Est-ce qu'il est compatible, cet esprit critique, avec la valorisation de la créativité, qui est le nouveau paradigme, le nouveau. Ça fait plusieurs années que, et quand on adopte une approche professionnelle, on valorise beaucoup la créativité. Dans le domaine des communications, dans le domaine des arts, dans le domaine littéraire, on est quelqu'un, dans la mesure où on crée quelque chose, et souvent, on oppose, d'ailleurs. Moi, j'appartiens à un département où on rencontre à la fois les professionnels et les gens un petit peu plus d'orientation sciences humaines et sciences critiques. Quand je disais qu'on peut développer un certain... certaines pensées négatives par rapport à l'esprit critique, c'est qu'on oppose souvent les deux. À savoir, nous, on crée, et puis les gens de sciences humaines et sociales, ils font de la critique. Ce sont des gens, des créateurs frustrés, en quelque sorte, qui sont pas capables. On dit souvent ça des critiques de cinéma ou des critiques de livres aussi. C'est des créateurs qui ont pas réussi à faire leur propre œuvre. Et souvent, les artistes eux-mêmes aiment penser cela, les critiques, parce que ça fait jamais plaisir. Même ceux qui prétendent que oh, la critique, ça ne les atteint pas, ça ne les touche pas, qui sont ouverts à la critique. Quand on leur vient de mettre au monde une œuvre à laquelle on a consacré beaucoup d'efforts, dans laquelle on a investi non seulement de l'argent, du temps, mais aussi un peu de soi-même, de voir quelqu'un qui vient gratter, faire des critiques, dire c'est pas tout à fait ça, t'as passé un peu à côté de la traque, il manque ceci, il manque cela. C'est humain de se dire, bon, pour qui se prend celui qui vient faire ça. Et on assimile souvent, en communication, je le répète, la critique, l'esprit critique, l'approche critique à ce type de critique-là. Alors que bien sûr, on a en tête, oui, cela, de critiquer les œuvres, de montrer leurs insuffisances, mais développer une approche critique, c'est pas uniquement ça, c'est pas surtout ça. C'est développer chez les professionnels de la communication, chez les gens que nous formons, cette attitude d'examen préliminaire, d'examen de toujours être un peu sceptique face aux choses, de jamais prendre les évidences pour ce qu'elles se donnent, de gratter. Ça ne veut pas dire de rien faire. Ça veut dire de soumettre à la question, à un examen attentif, regarder sur plusieurs angles, c'est quoi la théorie qu'on propose. C'est quoi la lecture de la situation qu'on me propose? C'est quoi l'œuvre dont il est question? Ah, la pensée critique, est-ce qu'elle est irréconciliable avec la créativité? En un certain sens, elle peut devenir paralysante, on l'a vu dès le départ. Lorsque le doute devient si systématique qu'il devient paralysant. Mais d'un autre point de vue, je pense que la pensée critique peut être vue comme complémentaire à la créativité, comme un autre versant ou une autre approche du même esprit qui commence par regarder ce qui s'est fait avant lui. Les exemples sont multiples. Par exemple, Picasso. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé un peu en détail l'œuvre de Picasso. Picasso a copié énormément de monde. En tout cas, il s'est servi de peintres qui l'ont précédé, des sculpteurs, il a étudié l'art africain, il a étudié l'art asiatique, et pendant une bonne partie de son temps, il y a différentes périodes où c'est qu'il refaisait les œuvres des maîtres, en quelque sorte. Il les a soumis à un examen. Il a fait du Picasso avec ça. Mais il a commencé par examiner, il a commencé par soumettre, dans une certaine mesure, à son esprit critique, ce que d'autres avaient fait, pour essayer de s'approprier des techniques, des méthodes, des regards, mais aussi pour les voir autrement. Et souvent, les artistes font ça, sans qu'ils appellent ça nécessairement l'esprit critique, mais de reprendre les œuvres de leurs prédécesseurs, de se les approprier, de les faire leur à ce point que ils ont soumis un certain examen critique. Et donc, de ce point de vue, la pensée créative peut se nourrir d'une approche critique. Comment concilier ça dans l'apprentissage? Je dirais que, j'avais annoncé cela à Paris, je pense qu'il faut, toujours pour les communications, revaloriser les cours de méthodologie et les cours d'épistémologie. L'épistémologie, je pense qu'il faut qu'elle soit pratiquée dans l'ensemble des cours théoriques que nous donnons, mais il faudrait redonner toute son importance au cours des méthodologies. On en a fait quelque chose de second ordre. Je parlais avec des collègues brésiliens il y a quelques mois qui disaient la même chose des cours de théorie au Brésil. Avec les professeurs qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine ancienneté, se délestent de ces cours-là. En communication, c'est à ce point que la plupart des cours de méthodologie qu'on donne au bac sont donnés par des étudiants de doctorat. Entendons-nous bien, là, ce n'est rien contre les étudiants de doctorat. Je souligne juste que ce sont de jeunes chercheurs, de jeunes professeurs, inexpérimentés, et qui, si d'ailleurs ils avaient le choix, ne prendraient pas nécessairement des cours de méthode. C'est parce que c'est ceux-là qui sont à l'affichage. Et nous, je m'englobe dans l'affaire, nous, les plus anciens, justement, on a le premier choix. Alors, on prend les cours qui sont reliés, bien sûr, à nos domaines de recherche plus particuliers. On prend les cours de théorie qu'on aime bien, surtout les optionnels, parce que les obligatoires, les étudiants sont là, puis c'est pas toujours facile. Bref, on délaisse, hein, on laisse à l'affichage pour les chargés de cours, et, ou encore aux étudiants de doctorat, les cours qui sont les moins attrayants pour nous. Or, les cours de métaux, c'est systématique. Je ne connais pas de prof régulier qui donne les cours de métaux maintenant, dans notre école des médias. Ils sont tous donnés par des jeunes profs inexpérimentés. Ils peuvent être bien donnés, hein. Là n'est pas mon point. C'est qu'on envoie des messages en faisant ça. On envoie des messages comme quoi les cours de métaux, c'est plate, que les cours de métaux, c'est pas très important, hein, parce que ceux qui ont le premier choix, ils ne prennent pas. Je pense qu'il faut qu'on revalorise ça, il faut qu'on réinvestisse. On n'est pas là dans la grande épistémologie quand j'ai dit ça, là, hein, mais un petit conseil organisationnel, une petite mesure organisationnelle qui pourrait améliorer beaucoup, je pense, la formation à l'esprit critique qu'on a des étudiants. Parce que c'est essentiellement ça, valoriser l'esprit critique. C'est apprendre aux jeunes, progressivement, qu'ils fassent l'apprentissage de c'est quoi, hein, de ne pas prendre pour acquis ce qu'on nous donne comme des évidences ou ce qui apparaît comme une belle pensée ou ce qui apparaît le fun et stimulant, etc. C'est développer une démarche systématique qui n'est pas nécessairement unique, homogène, mais qu'on apprend dans les cours de méthodologie. C'est fondamental. De la même manière, il faudrait aussi développer davantage les réflexions épistémologiques. Et ça, c'est plus attirant. Autant la méthodologie rebute les vieux profs, autant l'épistémologie est revêtue d'une certaine auréole. Hein. Les profs parlent plus facilement d'épistémologie, mais je pense d'une manière qui n'est pas toujours suffisamment approfondie et étayée. C'est pas simple, l'épistémologie. Mais faire ressortir les caractéristiques de la démarche de production de connaissances dans les différents cours que nous donnons, les cours dits théoriques, je pense qu'il est fondamental et qu'on devrait s'assurer que dans chaque description de cours, il y a un aspect qui est retour sur la production des connaissances, les limites, les manières de faire, etc., dans ce domaine particulier. Je dirais aussi qu'il faudrait peut-être, et là c'est une opinion dont on pourrait débattre, il faudrait réhabiliter la dialectique. La dialectique est foncièrement une approche critique, comme la plupart des méthodes scientifiques, mais c'est un mode de pensée qui, effectivement, que je caricature brièvement, mais la démarche de l'antithèse et de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse est une démarche qui facilite, qui favorise éminemment l'esprit critique et qui est une remise en cause continuellement des acquis, continuellement des connaissances qui doivent être remises à l'épreuve, remise à l'examen au fur et à mesure qu'on progresse. Et pour ça, on pourrait remettre à l'honneur la pensée dialectique. En ce qui concerne la réconciliation de la créativité et de l'esprit critique, encore là, il y aurait peut-être un effort d'analyse à faire pour montrer aux étudiants comment est-ce que ça n'est pas nécessairement stérilisant, que la pensée critique n'est pas nécessairement stérilisante pour la création. Et qu'à l'inverse, la créativité n'est pas la négation de l'esprit critique. Que la créativité ne s'exerce pas ex nihilo, à partir de rien. Hein. Elle s'exerce à partir d'un certain examen de l'ordre des choses. Et j'ai fini à Paris, et je vais finir de la même manière ici, en citant Charles Baudelaire, qui écrit que tous les grands poètes deviennent naturellement, fatalement critiques. Quelqu'un dans la salle m'a fait remarquer que peut-être que Baudelaire voulait dire par là la critique littéraire et critiquer ses prédécesseurs. Il est vrai que Charles Baudelaire a pratiqué la critique littéraire avec brio d'ailleurs. Il a été journaliste également. Mais je pense que moi je l'apprends dans un sens plus fondamental que ça, que tous les grands poètes deviennent naturellement, fatalement critiques. Et je pense qu'aussi, j'ai lu en quelque part que c'était un des sens que lui donnait Baudelaire, c'est que fatalement, un poète était satisfait de la condition humaine actuelle. Fatalement, il a en quelque part une sorte de vision d'un Eldorado ou d'un système meilleur que celui qu'il soumet à son analyse. On pourrait dire de la même manière que le penseur social critique, le penseur social est nécessairement aussi critique, qu'il soumet à l'examen, à l'analyse, la réalité sociale qu'il considère. Maintenant, là, à partir de là, tout est ouvert pour les différents systèmes sur lesquels on peut s'appuyer, échafauder pour remettre en cause l'ordre du monde. Hein. Et c'est pour ça que je disais que la pensée critique n'appartient pas nécessairement à une école de pensée en particulier. C'est plus une étude, une attitude, une approche, une méthode et une épistémologie. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous dis.
C'était 10 minutes.
Bon effort de concision.
Voilà.
Et pour les formations, des questions, commentaires. Oui, allez-y.
Premièrement, j'avais entendu que c'était à 10 heures, donc je vous ai répondu pendant votre présentation. J'ai manqué le début, malheureusement. Je me demandais, en fait, dans le champ général des communications, dans les études en communication, vous avez présenté la créativité versus l'esprit critique, voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier, ou comment est-ce qu'ils sont interreliés en quelque sorte, mais aussi d'une façon plus générale, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les études en communication, on a aussi cette tendance-là à s'intéresser soit à l'objet, à la technique, ou d'un autre côté, des études qui vont être plus au niveau des rapports sociaux, des contextes dans lesquels ils se produisent, puis c'est aussi un des défis, j'ai l'impression, d'arriver à, avec l'esprit critique, en quelque sorte, de réconcilier ces deux pôles-là, le pôle de la technique, le pôle de l'objet, mais aussi le pôle du contexte dans lequel ça se produit.
Sûr. Je partage cette idée que, en communication, la production du savoir est très liée au développement technique. J'avais déjà procédé il y a quelques années à une étude qui montrait effectivement comment est-ce que à chaque innovation technique, on voit un déplacement des thèmes des recherches. J'avais compilé, je pense avec Michel, on a fait ça il y a très, très longtemps, tu te souviens? Il y a très longtemps. On a fait ça. Par exemple, quand il y avait le vidéo portable, mon doux, vous savez même pas, pour vous, ça monte à l'antiquité, ça, hein? Mais le vidéo, le Sony, tu sais, hein? qui était une révolution à l'époque. Technique. Chacun pouvait partir avec sa petite caméra à l'épaule puis aller faire son petit film. Bon, on a vu se déplacer les titres des mémoires, hein, vers ce type d'expérience-là. Après ça, il y a eu les médias communautaires, la radio, etc. On a eu boum, hein, le câble. Et ça, bien sûr, toujours alimenté aussi, parce qu'il y a le phénomène technique, puis il y a les pouvoirs publics et privés qui mettent à disposition de l'argent pour ça et qui définissent des programmes qui orientent foncièrement la recherche. Tu vois l'impact de ces innovations techniques et l'impact des programmes gouvernementaux sur l'orientation de la recherche en communication, c'est phénoménal. Quand il y a une grande commission d'enquête aussi, c'est un événement politique, quand il y a Sauvageau Caplan, l'une des dernières commissions royales qu'il y a eu, hein, Sauvageau Caplan, c'était l'occasion, parce qu'il y a du fric, hein, pour donner à différents chercheurs pour faire une recherche sur bon, la télévision, un autre sur la radio, un autre sur... Bon. Bref, tu as une accumulation du savoir, des recherches qui se développent très liées à ça. Bon, je ne perds pas de vue le point principal qui était celui de la technologie. Et donc, maintenant, si tu regardes les titres des thèses et des mémoires, c'est beaucoup Internet qui prend un énorme impact, les réseaux sociaux, etc. Bref, on suit un peu les modes, c'est un peu normal, parce que c'est aussi ce qui se développe et ce qui fait partie de la réalité. Maintenant, est-ce que le développement technique est nécessairement, lui aussi, un frein, représente nécessairement un frein pour l'approche critique? Je ne dirais pas, et pas nécessairement aussi, je ne voudrais pas qu'on en tire comme conclusion qu'il y a une opposition irréconciliable entre les professionnels, les créateurs chez nous, et les analystes des sciences sociales et humaines. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a du côté des analystes, disons, sciences humaines et sociales, des théoriciens, des gens peu créatifs et très peu critiques non plus, très conservateurs, hein, comme on trouve du côté des créateurs, des gens qui sont à la fois créatifs et critiques, très critiques. Et non seulement chez les journalistes, par exemple, mais aussi chez ceux qui font dans le domaine du média interactif. Mais on trouve aussi de ceux qui sont fascinés par la technique et qui l'encensent et qui ne voient que le support ou le potentiel qu'elle représente en termes de créativité. On trouve ces attitudes-là, mais qui ne sont pas... Il y a tout ce qu'on appelle le courant du technological sublime, là, de ceux qui pensent que la technique est toujours nécessairement un progrès et toujours représente nécessairement aussi des solutions aux maux sociaux que nous rencontrons de manière un peu déterministe et simpliste. Bon, oui, cette attitude-là existe, mais elle n'est pas l'apanage des seuls producteurs. Les exemples sont légion dans le domaine des auteurs dits de sciences sociales, de ceux qui achètent facilement des rêves qui s'élaborent à propos des plus nouvelles, hein, des plus récents développements de la technique, des plus récentes innovations. C'est un constat, ça, dans l'histoire de la technique. Il y a toujours, hein, à l'émergence d'une nouvelle technique, d'ailleurs, et on y voit, remarquez une autre caractéristique, on y voit toujours, au départ, des applications extraordinaires dans les domaines très valorisés socialement, l'éducation et la santé. Régulièrement, le technological sublime, et ça s'enracine dans le téléphone de Daniel Bell. Hein. Daniel Bell, il voyait des applications pour les sourds, puis l'éducation des gens défavorisés. C'est ça le téléphone pour lui. C'était un média qui devait servir à régler des problèmes sociaux. On a la même reprise avec la radio, la télévision éducative, oui, ça c'est... Le téléphone portable, tout. D'abord, on voit, et c'est un argument de vente, c'est une stratégie de marketing, hein, on valorise, on fait valoir les applications nobles de ces nouvelles techniques qui justifient les investissements énormes qu'on met dedans. Quel parent, hein, va priver ses enfants d'un ordinateur portable pour son apprentissage, à son école, etc.? Ben non, on va tout acheter ça. On sait tous qu'ils s'en servent beaucoup plus pour les jeux et puis pour... toutes sortes d'activités qui ne sont pas liées nécessairement au scolaire, mais le rationnel derrière ça, c'est, oui, il faut qu'ils aient cet outil pédagogique, cet outil qui leur permet d'aller plus loin dans leur apprentissage. Donc, si j'ai bien compris ta question, je n'associerais pas de manière trop étroite les préoccupations professionnalisantes et l'innovation technique. Je dirais que l'innovation technique, elle est présente partout en communication. Elle préoccupe autant ceux qui font des études plus type sciences sociales que ceux qui font des applications. Hein. Bien sûr, les uns et les autres font des choses différentes. Ceux qui font des applications essaient de développer des applications, évidemment, de faire des produits, de faire des services avec ça. Ceux qui font de l'analyse plus sociale produisent des textes, produisent des rapports qui peuvent être soit critiques, soit aussi très souvent un appui au développement des dites techniques. Les mythes élaborés à partir des innovations techniques sont rarement le fait des artistes et des créateurs eux-mêmes. C'est surtout des idéologues qui font ça. Les artistes ne boudent pas non plus le développement technique. Quand on regarde ce qui... Au contraire. Pour eux autres, c'est de nouveaux modes d'expérimentation, c'est de nouveaux modes de... Ils essayent de pervertir ça, de dévier ça de leur sens, etc. Que ce soit la vidéo, que ce soit l'ordinateur. Comme il y a aussi, bien sûr, toutes sortes de productions à prétention artistique qui ne valent pas cher. Quoi.
Oui, c'est intéressant parce qu'il n'y aurait-il pas lieu à ce moment-là de créer carrément un axe d'épistémologie relié à la pratique. Parce que dans les faits, un des aspects qui est important dans la démarche artistique, c'est toujours la définition par rapport de l'artiste, de sa création, par rapport à un ensemble de connaissances préexistantes. Et ça, on ne le sait pas, si on n'a pas fait d'histoire, par exemple. C'est un des trucs qui est assez... Je vais prendre juste l'exemple d'un vieux collègue à moi qui avait été mon prof en histoire de l'art à l'université, pas à l'université, mais au Cégep du Vieux-Montréal, qui donnait un cours d'histoire de la photographie. Et il était... enfin, c'est un cours où beaucoup d'étudiants aimaient, et pour une large part, ça ne les intéressait pas du tout de savoir que le type de photographie, de technique qu'ils utilisaient appartenait à une histoire du développement des techniques de la photographie et des esthétiques de la photographie, etc. Alors, je me dis, peut-être que c'est une voie de renforcement, de retour historique, hein, d'une mémoire de la filière dans laquelle ils sont. Hein. Des gens qui sont en cinéma, qui n'ont qui ne savent pas finalement comment est née la caméra éclair qui a fait en sorte qu'on a pu commencer dans les années 60 à faire de la caméra à l'épaule et que ça donnait le cinéma direct, de la même façon qu'on a utilisé un porte-à-pack pour faire un peu des choses similaires, mais d'un point de vue de la filière vidéo, et des courants que la vidéo, par exemple, aurait pu générer par après. C'est la même chose, la même façon de connaître ce que était la radio dans les années 20 et ensuite comment ça s'est développé. Je pense que c'est assez fondamental cet aspect historique-là. Et quand on dit la production des connaissances, c'est pas seulement lié à la théorie, mais sa production des connaissances dans un champ disciplinaire et un champ y compris professionnel. Alors, je crois que si on posait la question, je terminerai là-dessus, si on posait la question à certains profs qui enseignent en multimédia ou ailleurs, ils ont probablement la même difficulté à développer cet esprit critique chez les étudiants et de faire valoir ce point-là. Surtout, justement, en obligeant les étudiants à avoir une démarche, à préciser cette démarche dans un ensemble plus large de production de connaissances ou de production professionnelle ou artistique ou autre, créative. Alors donc, cet alignage-là, me semble, est important. Mm-hmm. Et peut-être la voie, c'est un peu un dada aussi, c'est de comprendre d'où on vient et où on va, mais en même temps, comment on se situe par rapport à l'ensemble. Et ça, je pense que on prend des gens qui sont des gens qui sont en art, là, si on prend juste à l'UQAM, ici, en art, les gens vont être passionnés que par des cours d'histoire de l'art, sont obligés de situer leur démarche. Ouais. Alors, ça, je pense que c'est un point. Ouais.
Pour revenir à la technique, tantôt, c'est pas tellement l'innovation technique qui prend beaucoup de place, par définition, dans la formation en communication, mais c'est l'apprentissage des habiletés. Les étudiants veulent. Par exemple, s'ils veulent faire un film, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de savoirs techniques, pas au sens de l'objet, mais au sens de comment faire les choses, à apprendre quand tu arrives. Et ça, comme ils ne savent rien au départ, et que c'est pas évident, c'est comme faire un sport, c'est comme faire du ski, hein, t'as beau regarder descendre quelqu'un, c'est assez facile, mais t'approprier cette technique-là, c'est des répétitions, c'est comme aussi jouer d'un instrument de musique. Des heures et des heures de pratique de gamme, tu vois. Pendant ce temps-là, tu ne fais pas de l'histoire de l'art. Tu apprends le B.A.B.A. des techniques. Et c'est vrai que ça leur demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ils y passent des heures et des heures à essayer de faire leur petit film, leur petit bout de film, leur petite émission de... Et là, ils accordent beaucoup d'importance à la valorisation nécessaire de ce savoir-faire. Mais c'est dans la formation, parfois, un peu en termes de temps, au détriment d'une interrogation plus large sur comment se situe ma pratique dans l'histoire en question, d'un questionnement de nature plus épistémologique. À la fin de la journée, at the end of the day, comme ils disent, hein, au bout du compte, Il manque de temps. Et c'est fréquent, on a tous été confrontés à ça comme prof, quand c'est la période de production de leur petite vidéo ou de leur petit film, là, ils sont sans blague. Là. Ils travaillent pratiquement 24 heures par jour, ils travaillent 20 heures par jour. Puis les studios sont dérougissent pas, fait qu'ils ont leur planification. Essayer de mettre un travail dans un cours théorique pendant cette période-là, ça perd son temps.
Mais j'en doute pas. Puis en fait, ma réflexion, elle est aussi dans le sens que moi, je ne suis pas en création, là, dans le profil création. Puis en fait, même les étudiants qui s'intéressent à la communication plutôt d'une façon de penser dans la théorie sociale, il y a aussi une tendance à aller vers la technique puis à se concentrer sur un objet, sur la technique, puis à oublier peut-être des dimensions plus sociales qu'un esprit critique qui peut alimenter la réflexion. Donc, je ne doute pas que l'effet est encore plus grand lorsqu'on parle d'étudiants qui sont, ou de chercheurs là, qui sont directement dans la production, dans la création. Le défi est d'autant plus difficile à relever là, parce que nous, on le voit aussi, les étudiants qui veulent penser la communication ont aussi une tendance à s'intéresser à Internet, puis à pas toujours remettre ces objets-là dans des rapports sociaux, dans des contextes plus larges.
Oui.
Il y a un mot qui est revenu souvent au début quand tu parlais des descriptifs des programmes, c'est le mot compétence.
Oui.
Puis ça renforce très bien ce que tu viens de dire, ce qu'on vient de discuter. Oui. Parce que la façon que je l'entends, compétence, c'est justement maîtrise technique, sous-entendu, objective. Comme si donc il y avait absolument que l'espace critique, c'est pas là-dedans. Puis je pense que ça ouvre la porte que non seulement effectivement les gens viennent étudier en cinéma, en TV, ils veulent apprendre et maîtriser aussi. Essentiellement, puis quand on arrive à leur parler de critique ou de distanciation, ou même d'histoire, ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas intéressés au départ. Mais il y a aussi la faute du corps enseignant, d'une certaine manière. Déjà, en parlant de compétences, je pense qu'on marque assez bien le terrain, qu'on a une responsabilité, comme tu disais, peut-être même pas juste de donner des cours d'épistémologie, mais d'insérer une partie de l'aspect méthodologique et épistémologique dans le corpus normal de nos enseignements. On a déjà parlé. D'ailleurs, dans le cadre de l'implantation future de programme, on trouve que c'est un manque, mais d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. Puis ta longue expérience, comment est-ce qu'on fait?
C'est toi la longue.
Ou préalablement sur les cours de méthodologie. Je dirais plus largement que les cours de méthodologie, c'est le désinvestissement des professeurs au premier cycle. On remarque, dans le cadre de ma formation en journalisme, ici, j'ai eu un seul professeur dans le cadre des 30 cours. C'est une situation très problématique au niveau de la cohérence du corpus d'études. Encore une fois, rien à dire contre les changements de cours des étudiants de doctorat, mais il n'y a pas de mobilisation au niveau de créer un corpus d'études entre les différents cours qui va donner un enseignement cohérent. Et on se retrouvait à avoir plein de fois le même cours sur les mêmes sujets. Donc, il faudrait vraiment que les professeurs se réinvestissent dans le premier cycle, même si en comprenant le fait que ces professeurs font... Ce qui est le plus, c'est souvent faire la recherche et c'est pas avec les étudiants de premier cycle qu'on fait ça. Mais c'est en ayant un contact avec les étudiants de premier cycle qu'on va justement générer l'intérêt pour la recherche et pour la participation au cycle supérieur. D'ailleurs, ça passe pas entre les étudiants de premier cycle en communication et le deuxième cycle. Les gens passent pas à l'UQAM des communications aux études au deuxième cycle. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est très peu. C'est moins de 10% des étudiants.
Mais toujours pour parler très concrètement des programmes en communication, tout ça est le résultat de réformes qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années, hein, que les profils ont été... Et un des résultats de la création des profils, on a créé un profil en journalisme, un profil en cinéma, un profil... Et les cours de compétences. Hein, on construit le gros du programme. On a augmenté les cours de compétences. On a diminué le nombre de cours dits théoriques. Même si je n'aime pas le mot théorique pour qualifier ça, c'est des cours plus d'analyse, hein, quelque part, d'études. Et l'autre effet, c'est que les cours de théorie qui restent, souvent ne sont pas des cours de communication. Et c'est vrai que ce sont surtout des professionnels qui ont présidé à cette réforme de programme, je pense. C'est eux qui ont pris en main à la fois le programme. Les journalistes ont pris encore en main le cours, le programme des journalistes, les gens de télé, le programme de télé, etc. Et un des résultats, c'est que les profs de théorie de l'école des médias, avant c'était le département des communications, se trouvait sans cours à donner au premier cycle. Les cours de théorie qu'il prenait, c'était un cours d'histoire des communications. Ça, ça appartient au département d'histoire, pas au département des communications. Un cours de sociologie des masses médias. Un cours de sciences politiques, de politique des communications. Il restait pratiquement plus de cours pour les, au premier cycle, pour les gens dits de théorie. Ça, c'est l'un des facteurs. J'ajouterai un deuxième facteur, le désistement des cours, la désaffection des profs réguliers pour les cours de premier cycle ne tient pas qu'à un désir de se rapprocher de son objet de recherche. Elle tient aussi à une détérioration des conditions d'enseignement au premier cycle. Là, si on veut faire une analyse sociale plus large, là, c'est que là, moi, je suis arrivé à l'UQAM, là, un cours de 40 étudiants au premier cycle, c'était très rare. On avait des groupes de 20-25. Hein? C'était agréable de donner un cours de premier cycle. C'était, on ne faisait pas des cours d'amphi à 200-300 étudiants. Et ce qui rebute les profs pour donner des cours à 200-300 étudiants, c'est pas le fait de donner le cours, c'est les corrections. C'est bête que ça. C'est le travail de correction que ça implique. Il y a une détérioration des conditions d'enseignement au premier cycle qui ont fait que ces cours-là ont été de plus en plus donnés, avec la détérioration de la situation générale des universités, donnée par des chargés de cours. Au départ de ma carrière, moi, l'UQAM était exceptionnel. Le réseau UQ était exceptionnel par l'importance des cours donnés par des chargés de cours. Maintenant, si vous regardez la situation de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, eux autres, leur croissance du nombre de chargés de cours, de cours donnés par les chargés de cours, a augmenté considérablement et s'est rapproché de la nôtre. La nôtre a pratiquement un peu diminué. La proportion des cours donnés par les chargés de cours, sur le total, a diminué un peu. On part peut-être tellement loin. Mais celle des autres universités s'est détériorée. Dans l'ensemble du système universitaire québécois, enseigner au premier cycle, c'est devenu moins intéressant. À cause des conditions. Pas nécessairement. Et tu as tout à fait raison. Hein, c'est dramatique parce que Et de ce point de vue-là, les profs qui s'intéressent à la recherche le savent aussi. Et il y aurait intérêt à avoir une présence au premier cycle pour préparer, hein, pour attirer les bons candidats, ceux qui pourraient trouver de l'intérêt à leurs objets de recherche. Ça se prépare. Si tu as des étudiants à la maîtrise, il faut t'enseigner au premier cycle. Si tu n'enseignes pas au premier cycle, les étudiants ne te connaissent pas. Ils ne te choisissent pas. Si tu prends ça du côté de l'intérêt des profs, on a intérêt à enseigner aux trois cycles, pas à un seul. Parce que si tu enseignes qu'au doctorat, tu vas donner peut-être un séminaire de doctorat, c'est intéressant. Et effectivement, il y a moins de monde au doctorat qu'il y en a au premier cycle. C'est plus intéressant, de manière générale, corriger un travail d'un étudiant de doctorat parce qu'il est plus avancé que celui d'un étudiant de premier cycle. Mais si tu n'as pas enseigné au premier cycle, tu n'auras pas d'étudiant à suite à direction au niveau du doctorat. Si tu n'as pas enseigné au deuxième cycle non plus, c'est des conditions générales qui expliquent la situation. À la fois, la suppression d'un bon nombre de cours théoriques en communication, et d'autre part, la détérioration des conditions de travail au premier cycle, qui explique cette situation aberrante. Parce que c'est aberrant, effectivement, qu'on donne plus... Que quand on peut s'en tirer, on ne donne pas de cours au premier cycle. Puis quand on peut, on ne donne pas de cours de métaux non plus. Et c'est dramatique pour la formation des étudiants.
Petit ajout ad hoc, aussi, parce que je m'en suis rendu compte depuis de nombreuses années, y compris quand j'étais à Ottawa, que pour certains collègues aussi, les cours à dimension théorique, ça peut se donner devant 100, 200, 300 étudiants facile. Alors qu'au contraire, moi je me souviens donner des cours de théorie des communications, et la première chose que j'ai fait en arrivant ici, c'est que je vous ai dit que je ne voulais pas en donner un premier cycle, alors qu'on m'avait demandé d'en donner. J'en avais donné 5 ans à Ottawa, et j'avais eu l'occasion à la fois d'en donner devant 50 étudiants et devant 40. Et c'est pas du tout la même dynamique.
On confond les enseignants de pratique avec la publication de la discussion. On dit que la théorie, c'est pour discourir sur le mode du dogme, mais de discuter, de mettre en question les choses. Et puis pour ça, il faut que il faut qu'il y ait une interaction.
150, c'est tout ça.
Ah, c'est pas final. Mais quand Gaëtan a dit au début, mais la structure même physique de l'UQAM actuel, ce qui en reste, était un bon témoin de ça. Les classes ont été conçues physiquement pour accueillir 30 à 35 étudiants, 40 au max. Et puis, lentement, progressivement, avec la pression démographique, on a commencé à ouvrir des murs. puis à faire des amphis un peu partout. Mais à l'origine, il n'y en avait presque pas.
Moi, j'ai déjà donné un coup, presque dans un couloir. C'est tellement, justement, il avait enlevé des murs. J'avais 75 étudiants, mais par rangée de 5. C'est un couloir. Il fallait un haut-parleur parce que j'arrivais pas au bout de 3 heures, j'avais plus de voix. C'est un couloir. Il avait enlevé des murs.
Puis moi, j'en ai déjà donné un, où c'était la même chose, sauf qu'il y avait eu de l'idiotie de mettre les sièges de main et la tribune là, de sorte que tu donnais ton cours comme ça.
Est-ce que je pourrais poser votre question?
Vraiment la question.
Oui. Alors, je suis... comment dire? Pour faire bref, je vais passer les préambules. Comment est-ce qu'on distingue la pratique du doute comme moyen et la pratique du doute comme fin quand on travaille en tant que chercheur? Parce que ça me semble en effet. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne remet pas en question en permanence sur quoi on travaille en continuant d'autres travaux dans une temporalité étalée, par exemple?
Ouais. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je dirais que l'objectif ultime, c'est la production de connaissances. Et de ce point de vue-là, la pratique du doute est un moyen pour atteindre l'objectif. Mais la connaissance étant toujours partielle, toujours à remettre en cause, le doute est un moyen
permanent.
C'est une attitude. Et quand je prône la dialectique comme mode de pensée, c'est ça que je veux dire. Et la science fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on ne pense plus en termes de lois établies universelles, on pense en termes d'énoncés, hein, qui ont une valeur pendant un certain temps et qui sont nécessairement, avec la progression de nouveaux savoirs, remis en cause, reformulés, nuancés. Sans pour autant devenir des connaissances tout à fait inutiles ou désuètes. La relativité n'a pas fait de la loi de la gravité une fausse loi. Elle est située dans un ensemble plus large. Mais la gravité fonctionne toujours. C'est pas la connaissance ultime. Autant de Newton, c'était la connaissance ultime qu'on avait là. Maintenant, la relativité d'Einstein n'est même plus le cadre général. C'est un vieux pépère, Einstein, par rapport aux théories des...
Il y a quelques phénomènes recensés qui remettent en question, mais c'est encore la théorie la plus avancée pour expliquer l'état de l'univers. Mais bon, sans doute qu'il y aura d'autres choses à produire. Un petit peu de ça. On va se garder un petit jet. On va se garder un petit jet.
Niels Bohr a une autre...
Oui, mais c'est une partie avec laquelle, d'ailleurs, Einstein a travaillé aussi.
Mais dans les congrès scientifiques, je te dis que Einstein est un vieux schnock. Il date.
Il y a une chose que vous n'avez pas mal fait. Ton prénom, c'est
Marc-Olivier.
Oui, Marc-Olivier. Quand il dit que j'ai 2-3 fois le même cours, ça, je pense que c'est important à relever. Avoir l'impression que quand c'est un cours théorique, selon, on répète.
Ça en dit beaucoup sur la capacité de se remettre en question de la part du corps professoral.
C'est comment on arrime les cours entre eux. C'est-à-dire, jusqu'à quel point on arrime les cours, on articule les cours entre eux. Et ça, c'est toute la question, comment on produit un syllabus à et comment on arrime les syllabus entre eux. Je sais, pour avoir tenté de le faire avec le collègue Descarry à une certaine époque, et on l'a fait pendant 2 ans, et lorsque le professeur que j'avais remplacé est revenu, ça a été tout chamboulé, et donc toute la progression qu'il y avait entre les cours d'introduction, les cours d'atelier, tout ça, ça avait été, on l'avait travaillé, mais après, ça a éclaté. Donc, c'est au bon vouloir, éventuellement, alors qu'il y a il doit y avoir une volonté collective de produire cette articulation-là. Je pense.
De ce point de vue-là, les pratiques.
On est sur les dernières interventions depuis au moins 10 minutes.
Bon, de ce point de vue-là, quand même, il faudrait sans doute regarder ce qui se passe dans d'autres universités. Moi, je vois par exemple l'Université de Montréal, le descripteur est pas mal plus contraignant qu'à l'UQAM, où on a joué plutôt, j'ai l'impression, beaucoup la carte de l'autonomie, en fait. Hein,
la marge.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est intéressant aussi.
Ce qui est intéressant aussi, mais... parce que des descripteurs à l'UVM, par exemple, hein, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des collègues de cette université, un descripteur, c'est une page, et puis il est absolument nécessaire de suivre le contenu de la page. Ce qui favorise peut-être, le fait qu'il y ait moins de redondance dans le contenu des cours. Mais d'un autre côté, pour aller un peu dans l'autre sens... Les étudiants ont aussi une très forte capacité d'oubli de ce qui s'est passé 2-3 mois auparavant. Alors quand un étudiant me dit par exemple « Ah là là, mais on a déjà vu ça à l'école de Francfort », et puis que j'ai dit « Bon bah alors,
expliquez-moi. »
Voilà.
Ok, on passerait à la deuxième intervention.
Ben, on peut remercier Gaëtan.
Veux-tu mon appareil?
Non.
Bon,
salut.